Et nous-mêmes, ou aurions-nous besoin comme quelques-uns de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. On va nous arrêter là. Et donc, une des critiques implicites que l'on voit de la part de ses adversaires, c'est qu'il disait, il se vante, il est orgueilleux, Paul. Et c'est là qu'il dit, recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes? Et la réponse, c'est bien sûr qu'il va dire non. La deuxième partie de la question du verset 1 montre que peut-être il disait qu'il n'était pas qualifié. Il avait besoin, il aurait eu besoin de recommandations. On ne savait pas qui c'était vraiment. Et c'est vrai que, encore plus qu'aujourd'hui, aujourd'hui encore, on utilise des lettres de recommandation. Les ambassadeurs présentent leurs lettres d'accréditation. On parle aussi de lettre de créance. Les deux mots, créance ou accréditation, c'est toujours l'idée de croyance, de l'idée de faire confiance à quelqu'un qui se présente au nom de quelqu'un d'autre. Si vous cherchez un emploi, vous allez demander à votre employeur présent peut-être de faire une lettre de recommandation disant que vous êtes le meilleur travailleur qu'il a jamais eu, si c'est la vérité, qu'il se sépare de vous à regret parce qu'il ferme la boîte ou bien parce que vous déménagez. Mais cette lettre de recommandation va permettre d'établir un bon rapport avec le futur employeur. Si vous cherchez l'hospitalité quelque part, vous allez peut-être demander à Thierry de vous faire une lettre. Si vous allez à Bugeat dans l'Auvergne, peut-être ses parents pourront vous recevoir s'il y a cette lettre que vous avez en votre possession de quelqu'un qu'ils connaissent. Et en fait, à l'époque, c'est vrai, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas de courrier électronique. Et si on n'était pas connu par quelqu'un, il valait mieux avoir une lettre écrite par quelqu'un qui les connaissait et qui vous recommandait. Paul lui-même nous dit que lorsqu'il allait à persécuter les chrétiens dans les synagogues de Damas, il demandait des lettres aux grands sacrificateurs, aux chefs religieux, pour qu'on reconnaisse son autorité à critiquer, à emprisonner les chrétiens qui ne respectaient pas l'Ancien Testament, la foi juive. Lui-même, il a recommandé, par exemple, Phébé, dans Romains 16, une diaconesse de l'église sacrée, afin que vous la receviez d'une manière digne du Seigneur, digne des saints dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 16, il disait qu'il allait envoyer des lettres avec ceux qui apporteraient les dons à Jérusalem. Donc l'idée d'une lettre de recommandation, elle est légitime, mais dans le cas de Paul, elle est bizarre. C'est vrai que on a dit que dans l'église de Corinthe, il y avait des personnes, des juifs légalistes, qui refusaient le message de grâce de Paul. Et donc ils le critiquaient en disant mais pour qui il se prend, il a besoin de lettre de recommandation, on ne le connaît pas. Et en fait, Paul, lui, s'étonne, il dit, vous voulez me demander des lettres de recommandation? En fait, vous me connaissez très bien. Pour la plupart, c'est moi qui vous ai conduit au Seigneur. Vous avez vu mon ministère, vous avez vu mon cœur. Mais encore plus, verset 2, vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Et donc, il leur dit, vous vous laissez influencer par les faux apôtres qui vous demandent des lettres de recommandation pour moi. Mais en fait, réalisez bien que vous-même, vous êtes ma lettre de recommandation. Il avait utilisé le même genre d'approche dans 1 Corinthiens 9. Il avait dit, ne suis-je pas apôtre, n'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur ? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau, l'authentification de mon apostolat dans le Seigneur. La vie des Corinthiens avait été radicalement transformée. Dans 1 Corinthiens 6, il parle de ce qu'ils étaient avant, en disant que vous étiez des 1 Corinthiens 6, 10. Commence même au verset 9. Il parle des débauchés, des idolâtres, des adultères, des dépravés, des homosexuels, des voleurs, des cupides, des ivrognes, des insulteurs, des accapareurs qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il dit, c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Donc en fait, le Seigneur a été à l'œuvre de façon spectaculaire dans cette ville de Corinthe, dans cette église de Corinthe. Des gens se sont détournés de toutes sortes de péchés pour venir à la connaissance de la vérité et à l'amour de Dieu en Christ. Personnellement, en 1992, j'ai été ordonné pasteur de façon très informelle. Calvary Chapel est connue pour ne pas être une dénomination avec tout un tas de protocoles et de rigidités. Et en fait, ça s'est passé simplement au cours d'une réunion de prière très tôt le matin, que nous avions l'habitude de faire le mercredi matin à 6 heures. Pas dans une église gothique, mais dans un café-restaurant appelé Coco à Seattle. Et là, à la fin du temps de prière, le pasteur et d'autres assistants et quelques anciens ont imposé les mains sur moi, ont prié pour moi. Ils ont signé un document, un certificat d'ordination, un certificat que je suis pasteur, entre guillemets. Ce document a une valeur légale aux États-Unis. Il me permettrait de célébrer le mariage. Les gens peuvent se marier aux États-Unis simplement devant quelqu'un qui est ordonné, un prêtre ou un pasteur, sans passer nécessairement par la mairie ou l'administration laïque. Je ne l'ai jamais utilisé en tant que tel aux États-Unis. Mais ici, en fait, je ne l'ai jamais même vraiment sorti. Je pourrais le mettre là au mur ou à la porte de l'hôtel, voilà. Mais en fait, ce document n'a aucune valeur en lui-même. Parce que la preuve qu'on est vraiment un pasteur appelé au ministère de Christ, c'est le fruit de ce ministère. Le fruit du ministère, ce sont des vies transformées par l'Évangile. Il y a une chose, en fait, si vous voulez juger du ministère d'une personne, d'un pasteur, de quelqu'un qui se dit pasteur, en fait, la meilleure façon de voir son œuvre, de sa qualification, c'est de regarder sa congrégation. Et si quelqu'un veut juger de mon ministère, en fait, il faut qu'il vous regarde. Wow. Est-ce que vous êtes ponctuel? Est-ce que vous êtes assidu? Est-ce que vous êtes plein de zèle? Si quelque part il y a des choses qui manquent, le premier responsable, quelque part, c'est moi. Jésus lui-même disait en parlant des faux prophètes, les contrastant au vrai, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, dans Matthieu 7, 20. Et c'est vrai que vous êtes un reflet de mon ministère, de sa qualité ou de son manque de qualité, peut-être. Mais une autre chose qui nous touche tous, c'est qu'en fait, chacun de nous, nous sommes comme une lettre écrite par Christ à tous les hommes. Je crois qu'aux États-Unis, il y a une moyenne de 4 Bibles par personne, ou par famille plutôt. En France, j'ai pas les statistiques. On vend à la librairie chrétienne près d'un millier de Bibles par an. Peu de personnes ont la Bible en France, relativement. Encore moins ouvrent la Bible en France. Par contre, vous, ils vous voient. Ils vous voient agir, si vous avez le courage de dire que vous êtes chrétien. Et vous êtes comme une lettre de Christ écrite aux hommes. Ils ne vont pas lire la Bible, mais ils vont vous lire. Et si ce qu'ils lisent ne leur plaît pas, ils n'auront pas la peine d'ouvrir le livre dont ils s'inspirent. Par contre, si le livre qu'ils voient en vous les touche, s'ils disent « cette personne est vraiment différente, cette personne est pleine de compassion, cette personne est pleine d'humilité, cette personne fait du bien aux gens autour d'elle », alors peut-être qu'ils vont avoir envie de lire la parole de Dieu. Il y a une petite expression en anglais qui se traduit ainsi. Chaque chrétien est comme une lettre de Christ. Vous écrivez un évangile, un chapitre chaque jour. Par les actes que vous commettez et les paroles que vous prononcez. Les hommes lisent ce que vous écrivez, que ce soit fidèle ou non. Et la question c'est, dites, quel est l'évangile selon vous ? On connaît l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. Quel est l'évangile selon Pierre ? L'évangile selon Rain ? L'évangile selon Sébastien ? L'évangile selon Élie ? Et on pourrait continuer comme ça. Paul nous dit, et il leur disait, tout le monde peut voir que Christ a fait quelque chose dans votre vie, et ça c'est le seul témoignage qui compte pour l'Église. On peut distribuer des tracts, on peut peut-être mettre des grandes affiches sur les panneaux publicitaires, on peut passer des messages à la radio, mais le témoignage c'est, est-ce que Dieu fait quelque chose de visible dans ma vie ? Est-ce que ma vie est touchée par ma foi ? Si ce n'est pas le cas, alors le témoignage est plat, le témoignage est vide. Il risque même d'être négatif. Vous avez souvent entendu l'expression « si c'est ça être chrétien », souvent notre famille nous dit ça, ils nous connaissent bien. Et ils sont les premiers à être vigilants. C'est drôle comment les non-chrétiens, quelque part, savent comment un chrétien doit réagir. Et ils sont les premiers à nous épingler, en quelque sorte. Et donc, aussi, une application de ce principe, c'est si vous avez le désir de servir Dieu dans un... Le mot ministère veut simplement dire service. Le ministère, c'est pas le premier ministre, le second ministre, ou seulement les pasteurs. Le ministère, c'est le mot qui nous a donné le mot diaconat, c'est le mot de se mettre au service des autres. Et peut-être que vous vous mettez au service des autres dans votre famille, je l'espère. Je sais que vous le faites. Au service des autres dans votre travail, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui va aider les autres. Vous êtes peut-être au service des autres dans votre quartier, vous êtes impliqué dans la vie du quartier. Là aussi, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Dans l'église, bien sûr, vous pouvez avoir un ministère. Vous pouvez vous occuper des enfants, vous pouvez vous occuper de la librairie, de tas de choses. Encore une fois, je vous invite, je vous encourage à vous proposer pour servir. Souvent, avec le Seigneur, un principe, c'est qu'on reçoit toujours plus qu'on ne donne avec le Seigneur. Et si vous prenez l'engagement de servir, que ce soit pour mettre en place la salle, nous allons déménager dans 2 semaines... On aura sans doute besoin de retrouver nos marques là-bas. Peut-être que c'est une bonne occasion pour commencer à servir. Mais une façon de savoir si vous devez continuer dans tel ou tel ministère, c'est de voir le fruit de votre ministère. Si vous vous occupez des enfants, vous dites j'ai un grand cœur pour les enfants, j'aime bien mes petits neveux et mes petites nièces, et que chaque fois que les enfants vous voient à l'église, ils commencent à pleurer, peut-être qu'il y a, un problème là, peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pourriez faire à la place de ça. Vous voulez installer le système de son et dès qu'on met, ça marche pas, ou il y a des tas de possibilités, le fait d'être présent de bonne heure pour accueillir les gens, le fait, encore une fois, c'est pas les opportunités qui manquent, mais vous pouvez peut-être être tenté par quelque chose, essayez et voyez ce que le fruit va être. J'ai écrit des paroles ici en fait et je me les adresse à moi-même. Chose très importante, c'est de faire la distinction entre persévérance et obstination. Persévérance, ça veut dire continuer sous la pression, sans s'arrêter. Obstination, ça veut dire refuser de reconnaître que peut-être vous n'êtes pas fait pour telle ou telle chose. La distinction entre persévérance et obstination. Paul leur dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il y a deux extrêmes à éviter lorsqu'on sert le Seigneur. C'est l'orgueil et la fausse modestie. Dire « c'est moi qui ai tout fait » ou dire sans le penser vraiment « oh en fait, vous savez, j'ai rien fait du tout, c'est pas moi ». Paul n'a pas peur de dire que Dieu l'a utilisé pour transformer leur vie. La lettre de Christ, a été écrite par son ministère. Il a été utilisé par Dieu et il a essayé d'être aussi docile que possible entre les mains du Seigneur, comme une espèce de secrétaire, ou d'autres diront comme un stylo qui était tenu par Dieu pour écrire une lettre. L'Esprit Saint est comparé ici, l'auteur de la lettre, c'est encore une fois, c'est Christ. Paul, c'est comme le secrétaire, ou peut-être le stylo si vous le voulez, qui écrit la lettre, l'instrument. L'Esprit Saint, lui, est l'encre. Et les destinataires, ce sont tous les hommes. Vous êtes une lettre de Dieu. Et le support, donc, c'est pas, il dit que c'est pas gravé sur des pierres, mais c'est le papier du cœur des Corinthiens. Et là, on voit qu'il dévie un peu dans sa métaphore. Paul fait souvent ça, et on le fait souvent dans la vie courante, mélanger un peu les métaphores. C'est-à-dire, ces comparaisons, il parle que c'est pas écrit avec de l'encre. Une fois qu'il a dit ça, on s'attend à ce qu'il dise que c'est pas écrit avec du papier, mais avec des sur le cœur. Mais là, il va penser aux tablettes de pierre. Pourquoi ? Parce qu'il fait inconsciemment, peut-être, allusion à beaucoup de passages dans l'Ancien Testament. D'abord l'Exode 24, lorsque Dieu avait donné les tablettes de la loi à Moïse, après lui avoir donné les 10 commandements, il les avait écrits sur des tablettes de pierre. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Et puis dans l'Ancien Testament déjà il y avait l'annonce, la prophétie que les choses allaient changer. Jérémie 31 par exemple, 33, dit que Dieu allait conclure une alliance avec la maison d'Israël et qu'il allait mettre sa loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel disait la même chose dans Ézéchiel 11, 19. Je leur donnerai un même cœur, Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Donc une très belle comparaison, en fait, entre la pierre dure sur laquelle Dieu avait gravé l'ancienne alliance, les 10 commandements, et la nouvelle alliance qui allait être écrite sur le cœur de vivant, de cœur de chair souple. Et vous vous souvenez, la semaine dernière, lorsque Pat Lazovitch a parlé de l'argile qui s'endurcissait, tout ce qu'il pouvait faire, c'était la jeter, la détruire, parce qu'il ne pouvait rien écrire dessus. Le Seigneur veut mettre un esprit nouveau. Il veut ôter ce cœur de pierre. Est-ce que des fois vous avez le sentiment d'avoir un cœur de pierre? Moi, avec mon nom, j'ai un cœur de pierre, mais j'ai des fois aussi un cœur dur. Un cœur qui n'est plus sensible à l'Esprit Saint. Ce qui m'avait vraiment plu, c'était à la fin, lorsque Pat Lazovitch montrait que lorsqu'il y avait vraiment la parole, l'eau qui mouillait l'argile, comment il était facile à la fin, de par un petit geste du potier, d'avoir tout de suite une jolie réponse de l'argile. Et si vous souvenez, je ne sais pas si... peut-être je demanderai à Paul. Paul, est-ce que tu as regardé la vidéo que vous avez faite? Elle est, on voit quelque chose dessus? Pas encore le temps. Et en fait, on voyait que à la fin, vers le col du vase, il suffisait d'une petite pression et tout de suite, l'argile se mettait en place. Et c'est la façon dont nous devons répondre au Seigneur. C'est avoir ce cœur tendre, cette argile tendre qui répond à la moindre impulsion du potier. Dès que l'Esprit Saint nous met une idée en tête, au lieu de dire « oui, j'obéirai plus tard », on le fait tout de suite. Un de nos problèmes, c'est que trop souvent, on a le désir d'obéir, mais on n'obéit pas tout de suite. Et ça, c'est très grave de confondre l'obéissance et le désir d'obéissance. Il y a un monde entre les deux. On pourrait même dire que l'un peut conduire au ciel, l'autre conduit en enfer. C'est pas deux choses qui sont pareilles. Même si les mots, même souvent, on se dit « oh, mais j'avais pensé obéir, ou j'avais pensé écrire cette lettre, peut-être à telle personne que je savais dans le besoin qui avait des problèmes. » Ou... Et puis on est pris par des milliers de choses et on ne le fait pas. Et il y a cette parabole, bien sûr, de Jésus qui disait ce fils qui disait vouloir aider son père, mais il ne le faisait pas. Il n'avait rien fait, alors que l'autre qui disait « non, je ne le ferai pas », mais qui le faisait par la suite, lui avait vraiment obéi. Donc, rappelons-nous de ne pas confondre obéissance et idée d'obéir. Deux choses complètement différentes. L'auteur de la lettre aux Hébreux disait aussi, dans Hébreux 10:16, « Je mettrai, le Seigneur disait, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. Je ne me souviendrai plus de leur péché ni de leur iniquité. » Verset 4, ils disent « Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu, non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais encore une fois, notre capacité vient de Dieu. » Et ça, on a vu que c'était une réponse à la question qui se posait « Qui est suffisant pour ces choses ?» du verset de 2 Corinthiens 16. 2 Corinthiens 16, Paul était visiblement impressionné par la responsabilité d'accomplir un travail spirituel, d'amener des gens à la connaissance de Christ, d'être un témoin véritable, d'être quelqu'un qui persévérait. Et il disait « Qui est suffisant pour ces choses ?» un peu en levant ses bras. Et là, il nous répond « C'est pas de nous-mêmes. C'est pas moi qui suis capable. Ma capacité, notre capacité à tous pour servir Dieu, elle vient de Dieu. » Ça, c'est essentiel. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'avoir confiance en soi. On élève les enfants pour qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Des fois, tout ce qu'on a, c'est des petits enfants insolents. Il y a des cours aux États-Unis, ça doit arriver en France, pour développer la confiance en soi, l'aplomb, ce qu'on dit, l'assertiveness training, pour être... Il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds, avoir confiance, être conscient de ses droits et taper sur la table quand on a le droit de le faire. Paul y dit que tous les changements qu'on peut voir dans la vie des gens, ce n'est pas à cause de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ses talents, de ses capacités. C'est l'œuvre de Dieu en lui. Encore une fois, il ne dit pas qu'il n'a rien fait, mais il dit, si ce n'est pas Dieu qui fait ça à travers moi, il n'y aura pas de résultat. Quelqu'un disait que l'ancienne alliance, c'est Paul qui essayait de faire de son mieux pour Dieu. Vous vous souvenez qu'avant d'être apôtre, appelé par Jésus sur le chemin de Damas, Paul se pensait être le plus zélé de tous les Hébreux, de tous les Juifs. Il connaissait la loi, il avait ce riche héritage, il avait été formé au pied du plus grand des rabbins de l'époque, Gamaliel. Il était plein de zèle, il comme un dragon, il crachait le feu, dès qu'il voyait des chrétiens, il les supprimait. C'est lui qui essayait de faire de son mieux pour Dieu. Alors que dans la nouvelle alliance, maintenant qu'il a compris la réalité des choses, c'est Dieu qui va être en train d'accomplir en Paul le meilleur. Et ça, c'est quelque chose que nous devons apprendre aussi. Paul disait, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Il y a un livre célèbre d'un auteur du Moyen-Âge, Thomas à Kempis, qui s'appelait « L'imitation de Christ ». Et c'est un livre d'édification qui donne beaucoup de bonnes choses, mais l'idée, ce n'est pas d'imiter le Christ. L'idée, c'est, comme nous le dit Galates 2:20, c'est d'avoir Christ qui vit en moi, Christ qui va diriger ma vie, Christ qui va prendre les décisions pour moi, qui va les accomplir. Et souvent, cette mentalité de je dois être capable de servir Dieu, elle transparaît dans notre engagement ou manque d'engagement. On dit « je ne m'engage pas dans le service de Dieu, je ne veux pas enseigner les enfants parce que je ne suis pas encore capable. Je ne connais pas encore assez bien la Bible. » Et ça, c'est dangereux parce que ça montre que quelque part, vous pensez qu'un jour, vous allez être capable par vous-même. Alors bien sûr, il n'est pas question de se lancer dans n'importe quoi sans préparation. L'idée de préparation, elle est biblique. Paul disait à Timothée, si on voulait avoir un responsable d'église, il ne fallait pas qu'il soit un nouveau converti, parce que sinon il risquait d'être dans l'orgueil et tomber sous le jugement du diable. Le même Paul dans Éphésiens disait que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour équiper les chrétiens, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Même Paul disait à Timothée, il faut d'abord mettre à l'épreuve la personne qui veut être un responsable, qui veut être un ancien, qu'ils exercent d'abord. Mais il ne faut jamais croire qu'on est arrivé à un certain niveau. Dans le monde, on recherche beaucoup l'expérience. On a Brigitte qui rêve de commencer une carrière de fleuriste. Malheureusement, elle ne l'a jamais fait. Elle est plus toute jeunette. Et donc, on lui dit désolé, mais à votre âge, on cherche quelqu'un avec de l'expérience. Et l'expérience est une bonne chose quand ça nous aide à faire les choses. C'est une mauvaise chose lorsqu'on dépend d'elle. Notamment dans le service de Dieu, on peut se dire... Bon, mais c'est pas la peine que je prépare trop mon sermon, j'ai bien l'habitude, j'en fais un depuis des années, un ou plusieurs depuis des années, je peux aller m'amuser ou je peux aller faire autre chose, je peux improviser un peu. C'est dangereux ça, c'est très dangereux et vous êtes les premiers à le remarquer, je suis sûr. Il y avait le premier missionnaire en Chine, Morrison, je sais pas son prénom, disait je m'attends à ce que Dieu fasse une impression sur la Chine. Il disait pas je m'attends à ce que moi, je fasse une grande impression sur la Chine. Danger de se croire totalement qualifié. Si vous vous sentez un peu, vous manquez de confiance, si peut-être dans le cadre des groupes de maison, vous dites, tiens, peut-être je pourrais être responsable, peut-être je pourrais animer, peut-être donner l'exhortation, et que peut-être vous tremblez un peu, vous n'êtes pas sûr, eh bien c'est une bonne chose. Remerciez le Seigneur de cela, parce que vous allez être amené à tomber sur vos genoux, à prier, à demander à Dieu de vous aider, et c'est ce qu'il désire. Il nous a dit, je suis la vigne, vous êtes les branches, celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit, sans moi, vous pouvez faire quelques petites choses. Sans moi, vous pouvez faire des choses, mais pas toujours très bien. Non, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Zilcho, nothing. Rien du tout. Nada. Rien. Mais, le même Paul nous dit, Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie, parlant de Christ. Que ce soit pour nous vraiment une façon de vivre, ne dépendre que de Dieu dans tout ce que nous faisons. Dans la vie courante, ça peut être salutaire de savoir sur qui il faut de qui il faut dépendre. Je me souviens de l'église, le temps de le faire, il m'a dit, mais si tu veux, cet après-midi, je t'emmène. Je dis, comment ? Il m'a dit, oui, j'ai un petit avion et je t'emmène. Et donc, il m'a emmené prendre son petit Cessna. Et je dois dire que j'étais un peu inquiet. Il n'y avait qu'un seul moteur. Et dès que le moteur changeait un peu de régime ou qu'il y avait des bruits un peu bizarres, et sans doute ça serait votre réflexe aussi, mon premier réflexe était de regarder son visage. Voir s'il gardait toujours un visage détendu et souriant, ou bien s'il était là. Et l'idée, c'était que je dépendais entièrement du pilote. Je priais beaucoup aussi pour le Seigneur. Mais je ne me disais pas, tiens, si jamais il a une crise cardiaque, je vois, on tire par là, on pousse par là. J'avais déjà utilisé un peu le Flight Simulator de Windows, de Microsoft, mais tout ce que je fais, c'est de m'écraser contre les tours, comme on a fait malheureusement plus tard. Ou l'idée aussi, par exemple, un enfant peut ne pas avoir un sou en poche, mais il ne va pas se faire de soucis pour sa nourriture, son logement. Il sait que son père a des ressources. Il lui fait entièrement confiance. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un endroit qui nous force à nous humilier, parce qu'on aimerait bien penser qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. On aimerait bien penser que maintenant, je suis chrétien depuis 10 ans, puis 20 ans, puis 30 ans, je connais les passages de la Bible par cœur, j'ai écouté des milliers de sermons, j'ai fait des tas de... Non. Sans Christ, je ne peux rien faire. Mais par lui, qui me fortifie, je puis tout faire. Il n'y a pas de chose. Bien entendu, là encore, Philippiens 4, 13, ça ne doit pas être pris comme une invitation à la présomption et dire, justement, je peux sauter du toit et battre mes ailes, mes bras assez vite pour pas me faire mal. Mais dans tout ce qui concerne le travail auquel Dieu nous appelle, nous pouvons lui faire confiance. Il dit, verset 6, il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Nouvelle alliance, on en a déjà parlé plusieurs fois lorsqu'on étudie l'ancienne alliance, l'Ancien Testament. L'alliance, à l'origine, étymologiquement, c'est quelque chose qui est mis entre deux. Un arrangement conclu entre deux personnes. Il parle d'une nouvelle alliance, pas nouvelle dans le temps, mais nouvelle dans sa nature, dans sa qualité. Elle est différente de l'ancienne. Et c'est un mot qui est aussi utilisé pour désigner le testament que quelqu'un laissait pour laisser sa succession à ses héritiers. Et ce qui est bien avec un testament, c'est que c'est votre dernière volonté, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. C'est vous qui dictez les conditions. C'est pas le neveu qui habite là-bas qui va dire « moi j'aimerais bien aussi avoir la maison qui est là ». Non, c'est vous qui... Il peut le faire, mais c'est vous qui décidez. Et de la même façon, la nouvelle alliance, elle est décidée par Dieu. L'ancienne alliance, on a vu qu'elle elle représentait la loi. Dieu avait promis d'être Dieu d'Israël, de bénir Israël, si Israël restait fidèle à Dieu, en croyant à ses promesses, en obéissant à ses commandements. Et vous vous souvenez, on avait vu dans Deutéronome 26 qu'il y avait même une visualisation utilisée, une illustration dramatique. Aujourd'hui, on appellerait Jean-Michel Jarre pour faire des lumières. Mais là, il y avait des Lévites qui se tenaient sur le mont Ebal et puis d'autres sur le mont Gérasim. Et puis, d'un côté, ils disaient les malédictions qui allaient survenir à Israël si Israël n'obéissait pas à Dieu. Et de l'autre côté, de l'autre montagne, vous serez bénis si les autres Lévites donnaient toutes les bénédictions qui allaient arriver si, encore une fois, si Israël obéissait à Dieu. Et le problème, on le sait, c'est que, encore une fois, les 10 commandements, ces demandes de Dieu, elles sont merveilleuses, elles sont bonnes. Mais l'homme n'était pas capable de les respecter. La nouvelle alliance, elle est aussi attachée à la grâce. La grâce, c'est-à-dire que la bénédiction de Dieu ne dépend plus de notre obéissance à des commandements, à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Elle dépend d'une relation d'amour avec Dieu. Et elle était nouvelle aussi dans le sens que ce n'était pas seulement réservé à Israël, c'était offert à tous les hommes. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. C'est une expression qui est bien connue et qui est souvent utilisée à tort et à travers. Cette expression a donné, dans le langage ordinaire, l'idée qu'on distingue la lettre de l'esprit de quelque chose. Dans ce sens-là, on utilise le mot « lettre » pour désigner la forme et le mot « esprit » pour désigner le fond d'une pensée. C'est un usage légitime, mais il faut réaliser que ce n'est pas du tout ce que la Bible veut dire ici. Un exemple de ce genre d'usage, c'est par exemple lorsque la loi est intervenue, il y a une loi qui est sortie disant que les conducteurs de vélomoteurs ou de deux roues devaient porter un casque. Ça, c'était la lettre de la loi. Il fallait porter un casque. L'esprit de la loi, bien sûr, le fond, c'était qu'on voulait que les gens soient protégés. Ils sont pas très en sécurité sur un deux roues, c'est pas très stable. S'ils se renversent, la carrosserie, c'est leur corps. Donc l'idée, c'était qu'ils mettent un casque sur leur tête pour éviter de graves accidents, de graves lésions au cerveau, ou pire. Et beaucoup, bien sûr, l'esprit rebelle des jeunes a dit « il faut porter un casque, d'accord, on va porter un casque, on va le porter au bras ». Et je ne sais pas si vous avez remarqué, maintenant ça a changé, la loi a été... Pendant longtemps, on voyait des jeunes qui se promenaient qui étaient sur les deux roues avec le casque sur le bras, qui leur servait à rien. Ils respectaient la lettre, mais ils ne respectaient pas l'esprit de cette loi. Dans certains milieux chrétiens, on dit il ne faut pas suivre la Bible à la lettre. Tous les détails de la Bible, faut pas être paranoïaque. Il faut simplement suivre l'esprit. Il faut être gentil, il faut aimer son prochain, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'ils nous fassent. Mais il ne faut pas être fanatique. Hein. Dans d'autres milieux chrétiens, on dit même que, de façon encore plus erronée, la lettre, c'est la Bible. La lettre, c'est la Bible. L'Esprit, c'est l'Esprit Saint, bien sûr, et les différentes manifestations de l'Esprit, qu'elles soient bibliques, qu'on les trouve dans la Bible, ou qu'elles soient extra-bibliques, qu'on les ait inventées, découvertes, reprises de religions païennes. Et leur enseignement, c'est que il faut pas insister sur la Bible, pas besoin d'étudier la Bible, parce qu'elle est la lettre qui tue. Par contre, il faut faire toute la place à des expériences débridées, à des manifestations de l'esprit, qu'elles soient légitimes, comme la prophétie, le parler en langue, l'interprétation, ou bien illégitimes, à mon avis, comme le rire dans l'esprit, ce qu'on appelle la bénédiction de Toronto, des expériences mystiques variées, des interprétations allégoriques bizarres. Et tout cela est fait au nom du fait que l'esprit fait vivre. Donc pas de Bible. Mais allons-y, sautons sur les chandeliers, faisons des choses bizarres, l'esprit fait vivre. Ce n'est pas du tout ce que Paul veut dire ici. En fait, lorsqu'il parle de la lettre, Paul parle de la loi de l'Ancien Testament, il parle de l'Ancienne Alliance. On verra, il a donc utilisé plusieurs expressions pour parler de la loi de l'Ancien Testament, la lettre. Verset 7, que nous verrons la semaine prochaine, il parle du ministère de la mort, ou du, ce serait mieux traduit, du ministère qui mène à la mort. Verset 9, il parle du ministère de la condamnation, nous verrons ce que ça veut dire. Encore une fois, la loi, les 10 commandements, l'Ancienne Alliance n'étaient pas mauvais en soi, en eux-mêmes. On verra même la semaine prochaine que elle faisait même que le visage de Moïse pouvait rayonner la gloire de Dieu. Encore une fois, le problème, c'est pas avec les 10 commandements, le problème, c'est avec Pierre, Rain, Sébastien, Élie et compagnie. Excusez-moi, ça va décourager les gens de venir au premier rang. Hein. On va attaquer les personnes au dernier rang. L'idée, c'est que la loi est parfaite, mais c'est moi qui suis incapable de la respecter. Parce que j'ai une nature de pécheur qui refuse de se plier à ce que Dieu me demande. Tous, quelque part, on a horreur de faire ce que l'on nous dit. Et les méthodes psychologiques vous proposent de faire croire à l'autre personne que votre idée, c'est lui qui l'a trouvée. C'est de la manipulation mentale. Parce qu'on sait que si on dit quelque chose, un ordre à l'armée, ça rend fou de fureur les jeunes recrues, qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Et ça continue toute la vie, lorsqu'on me dit fais ceci, fais cela. Et la loi, nous ne pouvons pas la respecter. Et le problème avec la loi, c'est que si on veut l'utiliser comme outil pour être déclaré juste par Dieu, elle est très très exigeante. La loi, elle demande beaucoup. Non seulement elle dit de ne pas tuer, mais la loi, elle me dit, Jésus nous a expliqué qu'en fait, même si je ne tue pas physiquement de mes mains, mais si j'ai dans mon esprit de la haine et je traite mon voisin d'imbécile, de bon à rien, c'est la même chose. Elle est non seulement en action, mais aussi en pensée. Et puis pour respecter la loi, il ne faut pas seulement la respecter le dimanche matin pendant une heure et demie, il faut la respecter toute sa vie, tout le temps, et tous les commandements. Jacques explique que si on en rate un seul, c'est comme si on les avait tous ratés. On a expliqué que si un bateau est retenu par une chaîne à la rive, combien de maillons suffit-il pour que le bateau parte à la dérive ? Il suffit d'en couper un seul. La loi, elle est pareille. Si il y en a un seul qu'on ne respecte pas, une seule faute et tout est fichu. Ça peut être très décourageant. Et donc, dans le Deutéronome, il devait dire « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Et tout le peuple devait dire « Amen ». Mais c'était très dur, ça. Paul, en disant « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre », il résumait, il condensait de façon dramatique tout son enseignement sur la loi comparée à la grâce, l'Ancien Testament comparé à l'Évangile, l'enseignement qu'il a développé notamment dans Romains 7 et 8. J'aimerais qu'on lise ensemble Romains 7, un passage. Et on va voir qu'il utilise les mêmes genres de termes à partir du verset 6. Mais maintenant nous sommes dégagés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous tenait captifs, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non plus sous le régime ancien de la lettre. Donc là, il fait aussi la même distinction entre l'esprit et la lettre. Que dirons-nous donc, verset 7, la loi est-elle péché? Certes non, la loi est bonne, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché profitant de l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, autrefois sans la loi, je vivais, mais quand le commandement est venu, le péché a pris vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui mène à la vie se trouva pour moi mené à la mort. Car le péché profitant de l'occasion me séduisit par le commandement, et par là, lui me fit mourir. Ainsi, la loi est sainte, et le commandement saint, juste et bon. Ce qui est bon est-il donc devenu pour moi la mort? Certes non, mais le péché, afin de se manifester en tant que péché, a produit en moi la mort par ce qui est bon, afin que par le commandement, le péché apparaisse démesurément péché. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel vendu au péché. Et donc il dit qu'en fait la loi, les 10 commandements, Dieu nous les a donnés pour nous montrer que nous avions un problème. Nous sommes pécheurs. Et lorsqu'on dit ça à l'homme qui n'a jamais entendu parler de foi chrétienne, il le prend très mal, parce qu'il se dit « mais j'ai jamais tué personne, j'ai jamais volé la banque, comment vous osez dire que je ne suis pas une bonne personne, que vous me traitez de pécheur ?» En fait, dès que la loi est venue, dès qu'on vous dit de ne pas toucher à la peinture, c'est une chose à faire, un test. Si vous marquez « peinture fraîche » sur un poteau, vous pouvez être sûr que la plupart des gens vont aller voir pour voir si elle est vraiment fraîche ou si elle est sèche. Dès qu'on donne un ordre, tout de suite, ça suscite en nous, dans notre nature de rébellion, le désir de dire « mais pourquoi est-ce que je respecterai cet ordre? Pourquoi est-ce que je n'irai pas voir ce qu'il en est vraiment ?» Ça nous rappelle la tentation de Satan auprès d'Ève dans le jardin. Dieu a-t-il vraiment dit que... Et là, c'est vrai, on se dit « mais c'est vrai, on refuse d'obéir à la lettre, à la loi. » Et il explique que c'est le fait qu'il y ait une loi qui l'a conduit à découvrir le péché. Ça même, il dit que le péché a pris vie parce qu'il y avait le commandement. En fait, le péché était toujours là. Mais il se manifestait comme violation de la loi une fois que la loi est venue. Et il continue, verset 15. « Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, voilà ce que je fais. » Si ce que je ne veux pas, je le fais et déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne, maintenant ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. » Combien d'entre nous débattons des voix avec ce verset en disant « c'est vrai, je veux faire de bonnes choses, je ne les fais pas, il y a des mauvaises choses, et c'est celles-là que je fais. » Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien, le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur. C'est le désir d'obéissance. On dit oui, ce serait bien. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et là, il n'en peut plus. Il s'exclame, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Et la réponse, ça va être le chapitre 8. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. » Ça va être l'Esprit qui va venir en lui et qui va transformer sa vie. La loi est très dure. C'est quelque chose d'impitoyable. La loi dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Combien d'entre nous ici n'ont jamais volé? Alors c'est vrai, vous n'avez peut-être pas volé la banque, mais est-ce que des fois vous avez pris un crayon, un trombone, un stylo au bureau, puis vous l'avez jamais vraiment rendu? Ou peut-être que vous avez emprunté un livre à quelqu'un, que vous ne l'avez jamais encore rendu? En réfléchissant à ça, je me suis rappelé que je dois ramener un livre à Mike, à Sceaux, j'ai un livre à Thierry, j'en ai de partout. Et la loi est imperturbable, elle dit ne vole pas. Si tu voles, tu peux pas être béni. Et la question c'est, quelle est la chose la plus efficace? Est-ce que ce serait une liste de règles? Ou bien une personne qui viendrait dans mon cœur pour m'aider à respecter ces règles? Est-ce que c'est de voir les 10 commandements gravés dans la pierre, sur ces belles tablettes de pierre? Ou bien ce serait de voir quelqu'un qui vienne avec moi dans mon cœur et qui me dise: ne fais pas ci, non tu vois ça c'est mal, ça va faire du mal à telle personne, tu crois être seul mais en fait tu vas préparer le terrain pour telle autre chose. Et de la même façon, comment est-ce qu'on peut faire respecter la limitation de vitesse le mieux? On peut mettre un panneau de signalisation sur la route, sur le bas-côté, disant voici la vitesse limite, c'est 90 km/h. Ou alors on pourrait mettre dans la voiture un policier bienveillant, un policier sympathique qui nous aime et qui est là pour nous dire non, attention là tu vas trop vite. Il y a une limitation de vitesse et cette limitation de vitesse elle est pour ton bien. Il y a un tournant qui arrive tout de suite après, il y a une autre intersection, c'est très dangereux, il y a déjà eu 3 morts là dans les derniers 5 ans, ralentis. Et c'est drôle d'ailleurs que quand on est sur l'autoroute et qu'il y a une voiture de police qui d'un seul coup apparaît, tout le monde d'un seul coup a envie de respecter la loi. Tout le monde allait à 150, 160 et d'un seul coup tout le monde est à 130 ou beaucoup moins. C'est ce que Paul va détailler, on le verra la semaine prochaine, dans le reste du chapitre 3, le fait que la loi, elle est devenue une nouvelle alliance. C'est-à-dire que Dieu, au lieu de l'écrire et de nous condamner, la loi nous condamne parce qu'elle nous montre que nous ne sommes pas capables de la respecter. Elle tue parce qu'elle montre que je suis un pécheur qui mérite la punition. Et la punition, la Bible nous l'explique, c'est la mort, c'est que le sang soit versé. La nouvelle alliance, elle est là, à l'intérieur de mon cœur, pour me faire comprendre la loi, pour me la faire respecter. La loi va toujours être respectée si je suis rempli de l'Esprit Saint. La loi, elle n'a pas changé, elle est toujours parfaite. La loi, elle donne la vie, quelque part. Je ne retrouve plus le passage dans les psaumes. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle 19.1 ou 19.3. Elle, la loi. Elle n'a pas changé. Elle est toujours aussi parfaite qu'elle était il y a 4000 ans. Mais maintenant, le Seigneur l'écrit dans nos cœurs. Elle restaure l'âme. Alors, c'est pas qu'elle vous donne à manger, mais elle la met dans un état de bien-être initial. Elle fait du bien. Encore une fois, la loi, elle peut être terrible, surtout lorsque, comme ces gens qui critiquaient Paul, qui critiquaient l'enseignement de la grâce, parce que la loi, ils en faisaient du légalisme. Qu'est-ce que c'est que le légalisme? C'est définir un code de conduite auquel on sait qu'on peut se conformer dans le but de se glorifier soi-même. Je dis par exemple, le dimanche matin, il faut porter des pantalons kaki. Et si on ne le fait pas, on n'est pas aussi spirituel qu'on pourrait l'être. J'ai fabriqué un code de conduite et ces gens aussi, à partir de la loi qui était réelle, ils fabriquaient un code de conduite pour pouvoir condamner les autres et pour pouvoir s'exalter. Et Paul va nous montrer combien la nouvelle alliance elle est supérieure à l'ancienne alliance. Paul nous avait déjà parlé des passages qui vont suivre pour nous montrer que le but de Dieu c'était sa gloire. La gloire de Dieu, c'est un mot qu'on va retrouver beaucoup dans le passage, la fin du chapitre 3, et je vous invite à le lire. Et nous allons aussi étudier la supériorité de la nouvelle alliance. Nouvelle alliance que nous allons nous rappeler en célébrant ce matin la Sainte Cène. Nous allons prendre un temps de méditation. Encore une fois, si vous n'étiez pas là le week-end dernier pour la présentation sur la poterie, je vous invite à emprunter une cassette, il y en a quelques-unes, ou peut-être demander à Paul une fois qu'il aura vu la vidéo qu'il avait faite, qui nous rappelle que notre vie doit être centrée sur Christ. Christ doit être au centre de nos soucis, de nos préoccupations plutôt, de notre réflexion. Et nous devons laisser la parole être comme cette eau qui nous rend souple dans les mains du Seigneur qui est le potier. Et Jésus, lorsqu'il avait été trahi, le soir plutôt où il allait être trahi, il avait pris le pain, il l'avait rompu en remerciant le Seigneur de ce pain. On peut d'ailleurs se dire que c'est vraiment une expression de foi à la veille de ce moment qu'il savait si difficile pour lui, si intolérable. Il pouvait remercier le Seigneur. À combien plus forte raison, nous, même dans nos épreuves, on peut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, même dans les épreuves. Il a dit, ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Ce corps qui a été brisé, qui a été le sacrifice, il a pris la punition que nos péchés, notre nature de pécheur mérite. Il nous dit, maintenant, si vous venez à moi, la punition a été payée. Vous pouvez venir dans l'amour de Dieu, dans la communion intime avec Dieu. Il avait pris la coupe après avoir soupé, et il a dit, ça c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Donc cette nouvelle alliance dont nous parlons un peu, elle est symbolisée par le sang de Christ. Parce que nous n'avons plus à recevoir la punition nous-mêmes, nous n'avons plus à verser nous-mêmes notre sang. Jésus-Christ l'a versé une fois pour toutes. Lui qui était juste, parfaitement juste, pour nous qui étions les injustes, et maintenant nous sommes au bénéfice de sa justice. Nous avons cette relation, cet accès à Dieu, grâce à ce que Christ a fait pour nous. Il nous dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc nous annonçons le sacrifice de Christ. Et en même temps, nous savons qu'il est ressuscité, il nous a promis qu'il allait revenir. Nous avons vu mercredi dernier que c'est un élément essentiel de la foi chrétienne, le retour de Christ. Nous allons continuer les mercredis à venir sur ce thème. Jusqu'à ce qu'il revienne, nous l'annonçons. Mais aussi, nous devons, le même chapitre de 1 Corinthiens, Paul nous explique que nous devons nous examiner nous-mêmes, demander pardon à Dieu. Dieu a offert le pardon, mais nous devons reconnaître nos péchés. C'est un paradoxe, peut-être, quelque part, on pourrait penser qu'on n'a même pas besoin de faire cela. Mais la loi de Dieu est toujours inscrite sur notre cœur, si nous sommes vraiment chrétiens. Quelque part, nous voyons tout ce que nous avons fait qui n'est pas à la gloire de Dieu, et nous pouvons le lui confesser, c'est-à-dire, oui, je reconnais ça, ce n'est pas à ta gloire. Et nous avons sa promesse, qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché, de toute iniquité, pour nous restaurer dans cette relation de communion intime et merveilleuse. Donc que chacun s'examine soi-même, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. La communion, encore une fois, est réservée à ceux qui ont déjà accepté le Seigneur dans leur cœur. Mais nous devons aussi prendre ce temps de réflexion, et je vous invite maintenant à prier en silence pendant quelques minutes, à réfléchir sur votre vie et peut-être à tout ce que nous avons partagé ce matin, à remettre, à lui confesser ses péchés, et vous pourrez venir vous servir vous-même les emblèmes le jour de la musique pendant ce temps-là. Prenons donc un temps de prière et de réflexion. Une autre chose, si vous avez quelque chose à vous faire pardonner auprès d'un frère ou d'une sœur, c'est un moment aussi, le Seigneur nous dit de laisser là nos sacrifices et d'aller nous réconcilier. Faisons-le ce matin. Amen.